Oui, merci, Monsieur le Président. Je pensais que mon collègue Michel Briquet allait revenir sur le sujet qu'il évoquait tout à l'heure et que moi je rappellerai vite fait, puisqu'on a parlé de la loi Ravello dans ce rapport. Il y a l'idée de faire une variante entre Saint-Denis-de-l'Hôtel et Orléans au nord et qui résoudrait d'ailleurs la question de l'entrée dans Saint-Denis-de-l'Hôtel le long d'une départementale fréquentée. Mais plus globalement sur l'ensemble du rapport, j'ai quand même quelques remarques. Je note comme vous hein, les efforts considérables menés par le département sur certains points. Je pense que c'est pas qu'on pourrait mieux faire, on peut toujours mieux faire, et je pense qu'on fait déjà beaucoup. Mais sur certains points, il y a des écarts par rapport aux objectifs du développement durable, quand même un petit peu dans certains projets. Et puis, il faudra effectivement, je note avec plaisir cette volonté de transversalité de la thématique développement durable. Il faudra effectivement que nous soyons vigilants à une cohérence entre le travail de développement durable et puis un certain nombre d'autres politiques qui effectivement sont dans tous les domaines. Plusieurs petites remarques. J'ai vu apparaître un moment qu'on faisait aussi deux colonnes, ce qui est au service des territoires et ce qui est au sein de l'institution. Je crois que c'est quelque chose de très important de ne pas oublier notamment ce qui concerne tous les habitants, parce que dans l'institution on a commencé avant l'agenda 21 et il y a toujours eu cette recherche, mais par contre justement je pense que c'est dommage de dire au service des territoires. Ce mot territoire devient un peu un leitmotiv et je pense que c'est au service des habitants, de même que je l'ai cru le percevoir en filigrane dans certains propos tout à l'heure, quand on dit on défend la nature, oui, on défend les humains, hein, c'est pas voilà, quand on défend des papillons ou des abeilles, c'est souvent pour simplement assurer une vie confortable, voire tout simplement la survie des humains. Là, les territoires, c'est bien gentil, mais si c'était vide, on ferait pas beaucoup de rapports. Donc, ce qui compte, c'est les gens qui habitent dedans. Je crois que ça doit rester dans notre idée. Il y a un point important dans nos actions, c'est tout ce qui concerne l'énergie et l'habitat, et je crois que c'est important d'en faire une priorité. Certes, la mobilité est aussi un secteur où il y a des possibilités d'agir, mais nous avons des politiques qui sont relativement intéressantes en matière d'énergie et d'habitat. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que on peut pas être dans le discours où c'est une solution technique ou scientifique qui va être la seule échappatoire aux difficultés qu'on pourrait avoir climatiques ou de simplement de ressources en énergie, mais que ce qu'il convient de réussir, c'est d'arriver à consommer moins, et que effectivement c'est beaucoup plus facile de consommer moins que d'augmenter la consommation, puis après d'essayer de le faire avec des bonnes énergies. Et je pense notamment à ce que vous disiez sur les déplacements avec des nouveaux véhicules qui seraient moins polluants. Enfin, je pense que les solutions purement techniques nous éloignent peut-être aussi des fois du développement durable. Et voilà, on a cité Lisbonne, Cartable. Ce sont des progrès par certains aspects. Mais vous en êtes d'accord. Enfin, je l'ai déjà entendu de tout bord. On travaille quand même effectivement pour l'humain, et ce qu'il convient de réussir, c'est d'assurer du confort aux gens dans leur vie, et pas forcément en développant des nouvelles techniques quand il n'y en a pas besoin. Sur Aprolis, présenté comme dans ce rapport, je suis un peu surpris parce que c'est une centrale d'achat, mais quand les achats ont été cités, on voit le gaz, les selles de déneigement. Enfin, les selles de déneigement, là encore, la solution, ce serait plutôt de s'en passer. Il y a des pays qui sont presque toute l'année enneigés, qui n'utilisent pas les selles de déneigement. Donc je pense que ce serait une certaine révolution. Par exemple, comme l'idée qui est saugrenue, qui est apparue un jour, d'interdire aux gens de fumer dans les lieux publics. Mais voilà, il y a des pays où ça se fait. On arrive à rouler sans selle de déneigement. Alors honnêtement, j'en fais pas mon combat prioritaire, hein, mais c'est pour montrer que ce qui compte dans Aprolis, c'est pas seulement de mutualiser, c'est peut-être d'acheter des choses qui vont dans le sens du développement durable. C'est-à-dire que voilà, si on achetait beaucoup de charbon, on parle du gaz avec Aprolis, mais si on achetait beaucoup de charbon pas cher avec Aprolis, ce serait pas forcément du développement durable. Donc je pense que le contenu des achats pourrait compter, et j'espère par exemple que on va pas être amené enfin d'une certaine manière à proposer pas cher des produits qui seraient soit déjà importés, soit d'une qualité discutable sur le plan du développement durable, pour des gens qui, sans ça, auparavant, achetaient certes plus cher, mais achetaient peut-être en choisissant soigneusement des producteurs locaux ou des produits auxquels ils trouvaient une vertu écologique supérieure. Et là-dessus, nous avons le fonds carbone, peut-être que toutes les collectivités l'ont pas. L'idée est bien que des fois, ça vaut le coup de payer un peu plus cher des produits de meilleure qualité à tous les sens du terme, c'est-à-dire social ou environnemental ou même économique quand il s'agit d'acheter dans notre propre territoire. C'est important, c'est de l'emploi. D'ailleurs, je note avec plaisir les remarques qui ont été faites sur l'agriculture bio. Effectivement, on est peut-être mal placé, donc si on fait des progrès, je pense qu'il faut qu'on essaye de les encourager. C'est une agriculture qui développe de l'emploi aussi. Et des fois, peut-être que il faut payer un tout petit peu plus cher la nourriture, mais avoir des gens employés et donc peut-être payer un peu moins cher le RSA d'acheter en gros et pas cher. Voilà. Pour ne rien oublier, je voudrais revenir sur le bilan de l'agenda 21 pour dire que ça a été une expérience très intéressante et qui continue, bien sûr. Et je suis très content puisque moi j'ai commencé à en parler au début de mon premier mandat. Et quand c'est arrivé, c'était très intéressant de voir comment ça s'est développé. En cours de route, il y a eu une déception en ce qui me concerne. C'est qu'on avait entamé un travail beaucoup plus tourné vers la participation des habitants eux-mêmes à cet agenda 21. Et ça n'a pas été mené à terme. Ça a même été un petit peu oublié, à mon sens, dans toute la conclusion. Je crois qu'il faudrait au moins retourner vers les habitants pour leur présenter, mais de façon participative. Il ne s'agit pas de se payer une campagne de communication. Hein. Enfin, honnêtement, quand on entend parler beaucoup du label qu'on a obtenu, certes, mais moi ce qui me gênait, c'est que c'était pratiquement le principal objectif de l'agenda 21. Donc c'est un peu dommage. C'est pas, enfin, c'est un bonus. C'est une preuve d'un certain nombre de qualités de cet agenda 21. Mais l'objectif de l'agenda 21, c'est effectivement d'offrir plus de confort à tous nos habitants dans le respect des générations futures. Donc, ce qui serait bien, c'est de retourner de façon participative vers les habitants pour rediscuter de ce qu'on a décidé, qui s'est fait donc à la fin un petit peu sans eux. Et puis, effectivement, je pense que comme ça va continuer, qu'on va constamment enrichir les actions, reprendre et développer cette démarche participative. Voilà ce que je voulais dire sur ce rapport. Je vous remercie.